France Culture.
Et le journal, c'est avec vous, Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Aux États-Unis, Donald Trump poursuit ses attaques contre les universités. Harvard est désormais visé par une enquête du département d'État américain. Les détails de Nicolas Théard au début de ce journal. Puis nous verrons que le président américain détricote également les timides garde-fous concernant l'intelligence artificielle après l'annonce d'un plan dans ce domaine hier.
La Chine et l'Union européenne se rencontrent aujourd'hui à Pékin. Des efforts communs sont annoncés pour lutter contre le changement climatique. Mais pour les Européens, rien n'est réglé sur le front du déficit commercial abyssal avec Pékin.
Pourquoi assiste-t-on à un regain de tension entre le Cambodge et la Thaïlande? Précision à suivre.
Enfin en France, direction Avignon. Au festival, la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, a été controversée.
Après avoir annoncé le retrait américain de l'UNESCO cette semaine, Donald Trump poursuit son offensive sur les universités. Les plus prestigieuses sont attaquées par la Maison-Blanche, accusée de laisser prospérer l'antisémitisme sur les campus et de promouvoir la diversité. Symbole d'un bras de fer engagé dans le monde de l'éducation, comme dans celui de la culture, ces universités sont plus que jamais sous pression. Nicolas Théard.
Cible favorite de l'administration Trump, l'université Harvard. Ses 23 000 étudiants et ses 161 prix Nobel. Un symbole de l'idéologie woke pour le président américain décidé à mettre au pas cet emblème du savoir. Déjà privé de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales, le campus de Boston est désormais visé officiellement par une enquête du département d'État pour vérifier, je cite, que ses programmes ne portent pas atteinte aux objectifs de la politique étrangère du pays ou à la sécurité nationale. Également visée par des procédures, l'université de Columbia à New York a fini par céder à la pression, confirmant hier un accord avec le gouvernement. La fermeté du président va permettre d'éliminer les préférences raciales et de mettre fin à la promotion de la diversité, commente la ministre de l'Éducation. Une bataille idéologique qui se joue aussi dans les programmes scolaires ou les institutions culturelles. Retrait de l'UNESCO au nom de l'America First, censure d'expositions jugées trop partisanes. L'offensive se poursuit aussi dans les médias, où la directrice de l'information de la radio publique a jeté l'éponge cette semaine. Elle se prolongera enfin dans l'intelligence artificielle, où les agences fédérales auront l'interdiction d'acheter des logiciels d'IA jugés woke par le pouvoir.
Nicolas Théard, le président américain a en effet présenté hier un plan d'action pour accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle à grande échelle. Donald Trump qui revient sur les timides garde-fous mis en place par son prédécesseur Joe Biden. Il souhaite notamment faciliter la construction de nouveaux centres de données et la réalisation de grands projets énergétiques pour répondre aux immenses besoins de ces data centers en électricité. Écoutez ce qu'en dit Benjamin Pageau. Il est chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI.
Ce plan, il traduit un choix très clair en faveur de la dérégulation et du laisser-faire. C'est un véritable cadeau qui est fait à l'ensemble du secteur technologique américain, avec un recul en termes de normativité, une absence de garde-fous, qui a beaucoup à voir avec l'entourage immédiat de Donald Trump et des gens qui sont chargés de ces questions, qui sont en fait issus de ce secteur technologique et qui sont en faveur d'une dérégulation. C'est dans la tradition trumpienne de revenir sur tout ce qui a été fait par l'administration Biden, et notamment cette approche de l'IA par une utilisation responsable qui avait été fixée par l'administration Biden, donc un mécanisme de contrôle, de lutte contre les biais, la désinformation, d'essayer d'obtenir des IA fiables, et de fixer notamment certaines limites écologiques, et donc une volonté de revenir sur toutes ces mesures pour imposer un rapport de force aussi avec les États américains, qui avait tendance à réguler davantage que l'État fédéral. L'idée derrière tout ça, c'est de dire, en fait, si on régule trop, nous, les États-Unis, on va se faire rattraper par la Chine. La réalité, c'est que cette course aux armements technologiques et à l'intelligence artificielle en particulier est une variable d'ajustement politique. Elle cache un désir, à mon sens, de la part des acteurs clés de ce secteur, de s'emparer en fait de toutes les marges de gains possibles. Il faut aussi se méfier de ces grands effets de manche, notamment aujourd'hui à l'heure où cette administration est sous pression avec le retour de bâton sur l'affaire Epstein notamment.
Des propos recueillis par Fiona Mogadam. Les 27 pays de l'Union européenne adoptent un plan de représailles de 93 milliards d'euros à l'encontre des États-Unis dans la perspective du 1er août en cas d'absence d'accord commercial avec Washington sur les droits de douane. Mais un accord serait à portée de main, annonce à l'instant l'Union européenne. L'UE qui est invitée en Chine aujourd'hui au sommet de Pékin pour célébrer 50 ans de relations diplomatiques. Le pays cherche à resserrer ses liens avec le vieux continent, un partenaire actuellement plus stable et fiable que les États-Unis. Il n'existe pas de conflit d'intérêts ni de désaccords géopolitiques fondamentaux entre la Chine et l'UE, a déclaré Xi Jinping, le président chinois. Mais ce n'est pas si clair pour les Européens qui sont arrivés avec une liste de contentieux autour du déficit commercial abyssal avec Pékin, mais aussi du rapprochement économique et politique avec la Russie. Les précisions à Bruxelles de notre correspondant permanent, Fabien Cazot.
Face aux marchandises chinoises qui inondent les marchés, notamment européens, et qui menacent de le faire encore plus si le marché américain venait à se refermer, l'Europe ne veut pas se laisser submerger. C'est ce qu'a voulu souligner ce matin, en termes très diplomatiques, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
L'équilibrage de notre relation bilatérale est essentiel, car pour durer, notre relation doit être gagnant-gagnant. Il est vital pour la Chine et l'Europe de prendre en compte les préoccupations de chacun et de trouver de vraies solutions.
L'une d'elles, sur le plan géopolitique, consisterait, selon les Européens, à faire pression sur la Russie de Vladimir Poutine. C'est le message qu'a voulu faire passer le président du Conseil européen, Antonio Costa.
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous appelons la Chine à user de son influence sur la Russie pour qu'elle respecte la Charte des Nations Unies et qu'elle mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine.
Un engagement qui est loin d'être gagné, la Chine protestait encore officiellement hier auprès de l'Union européenne contre les sanctions économiques infligées à la Russie.
Explication à Bruxelles de Fabien Cazot. La Chine, mais aussi la Malaisie, appellent à la retenue ce midi. Des affrontements ont opposé la Thaïlande et le Cambodge au niveau de leurs frontières. Des avions de combat thaïlandais ont frappé des cibles militaires cambodgiennes et des tirs d'artillerie attribués aux camps opposés. Frappes qui ont fait au moins 11 morts, selon Bangkok. Ce niveau de violence n'avait pas secoué la région depuis presque 15 ans. Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est se déchirent en effet de longue date sur le tracé de leurs frontières communes, frontières définies durant la période de l'Indochine française. Le compte-rendu de Juliette Chénion.
Oui, plusieurs temples en particulier sont au cœur de la dispute entre les deux pays qui ne sont pas d'accord non plus sur la manière de régler le conflit. Le Cambodge en appelle à la Cour internationale de justice des Nations Unies, une institution que la Thaïlande ne reconnaît pas. Depuis des dizaines d'années, des tensions militaires éclatent donc régulièrement le long de cette frontière de plus de 800 km. Et il y a deux mois, c'est la mort d'un soldat cambodgien qui a ravivé le différend. Les deux pays se sont accusés mutuellement d'avoir ouvert le feu. Ils ont ensuite pris des mesures de représailles ces dernières semaines, avec côté Cambodge un embargo sur l'importation de produits thaïlandais et côté Thaïlande une fermeture et un contrôle des frontières terrestres. Le conflit semblait depuis s'enliser jusqu'à la semaine dernière avec l'explosion de mines qui ont blessé 5 soldats thaïlandais. Le Cambodge a nié toute implication. Les deux pays ont aussi rappelé hier leurs ambassadeurs respectifs avant l'escalade militaire, donc ce matin, du jamais vu depuis 2011. À l'époque, plusieurs jours de combat avaient fait au moins 15 morts et des dizaines de milliers de déplacés des deux côtés.
Les précisions de Juliette Chénion. Alors que les critiques d'organisations internationales sur une propagation de la famine dans la bande de Gaza se multiplient, Israël annonce examiner la réponse du Hamas à une proposition de trêve de 60 jours. Trêve issue de pourparlers organisés depuis le 6 juillet à Doha via des médiateurs dont le Qatar, les États-Unis et l'Égypte. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem. Des éléments au sujet de cette réponse du Hamas ont-ils filtré ?
Oui, une réponse du Hamas, et cette fois encore sous forme de « oui mais ». Elle est parvenue en Israël, où l'on souligne l'existence d'écarts dans les positions, dont certains non négligeables. Les pourparlers semblent achoper toujours sur la question du retrait israélien, notamment dans le secteur de Rafah, au sud donc de l'enclave palestinienne. En Israël, on estime que cette discorde est négociable. Et curieusement, c'est à Rome et en Sardaigne que devrait se dérouler dans la journée une tentative de peaufiner un accord, cela de manière indirecte par l'intermédiaire de l'émissaire américain Steve Witkoff qui devrait se rendre à Doha plutôt. Autre point sensible, la question de l'aide humanitaire. Le Hamas exige un retour au système de distribution précédent. De son côté, Israël nie toujours l'existence de la famine à Gaza. Le gouvernement israélien affirme qu'il n'est pas responsable de la pénurie chronique de nourriture dans la bande de Gaza. Des centaines de camions remplis d'aide alimentaire sont bloqués au point de passage, indique l'armée israélienne. Et Israël accuse le Hamas, mais aussi les institutions de l'ONU, de provoquer un véritable goulot d'étranglement pour cette aide.
Et hier, Michel, la Knesset a aussi adopté une motion non contraignante qui prône l'annexion de la Cisjordanie.
Oui, le texte soutient l'application de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et également dans la vallée du Jourdain et qualifie ces territoires de partie intégrante de la terre d'Israël. C'est une motion déclarative qui a été adoptée par une majorité massive du Parlement israélien. 71 députés sur les 120 que compte la Knesset. Seuls 13 députés se sont opposés à ce texte qui n'a aucune valeur opérative ou législative, mais qui a provoqué en tout cas une véritable levée de boucliers, des condamnations de la diplomatie palestinienne et de plusieurs pays arabes, notamment l'Arabie saoudite.
Michel Paul, merci. Vous étiez en direct de Jérusalem. La Cour internationale de justice a ouvert la voie hier aux réparations climatiques. Alors que les ressources disponibles sur Terre se consomment de plus en plus vite chaque année, le jour du dépassement, soit le jour où l'humanité a déjà utilisé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an, a lieu aujourd'hui. Une date plus précoce que d'habitude. Véronique Rebérode, bonjour.
Bonjour.
L'an passé, ce jour était tombé le 1er août. À quoi est dû ce recul ?
Oui, une partie en tout cas de ce recul s'explique un peu par des ajustements de données scientifiques. Par exemple, la capacité de séquestration du carbone par les océans a été réévaluée à la baisse. En réactualisant certaines de ces données, eh bien ça n'arrange rien. Mais c'est surtout la tendance globale qui reste catastrophique. Ce dépassement en 2025 s'explique par le fait que rien ne change finalement dans nos comportements. Les humains émettent plus de CO2 que la biosphère ne peut en absorber, utilisent toujours plus d'eau que ce qui peut être reconstitué, coupent plus d'arbres qu'il n'en repousse, pêche à un rythme supérieur à celui qu'il faudrait pour que les stocks de poissons ne se reconstituent. Aujourd'hui, nous utilisons les ressources naturelles 80% plus rapidement que la Terre n'est capable de les régénérer, ce qui équivaut à consommer presque deux planètes, 1,8 précisément. En 1971, date des premiers calculs, la planète vivait à peu près à l'équilibre. La date de dépassement était le 29 décembre en 1971. L'année 2020 est la seule année où des progrès ont été constatés en raison de la pandémie du Covid-19 et du ralentissement donc de l'économie mondiale. Alors, ce jour du dépassement, le 24 juillet donc en 2025, c'est une moyenne mondiale. Si toute l'humanité vivait comme la moyenne des Français, il faudrait 3,3 terres pour faire face à nos besoins. Car le jour du dépassement pour la France, c'est le 19 avril. Pour le Qatar, c'est début février.
Véronique Rebérode, spécialiste environnement de France Culture. Elle n'est pas la bienvenue, avait déclaré hier un représentant de la CGT Spectacle sur notre chaîne. Les drapeaux du syndicat étaient sortis ce matin pour accueillir Rachida Dati en visite express au Festival d'Avignon. Deux jours après l'annonce de son renvoi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Carlos Ghosn, la visite est discrète. Elle s'est déroulée en dehors de l'hypercentre dans le secteur du microquartier de La Rocade. La ministre a notamment parlé culture et politique de la ville dans un centre social. Une visite à distance donc d'une cinquantaine de manifestants avec qui vous étiez. Dimitri Morgado.
D'abord, ils se sont rassemblés à 9h ce matin devant la cité administrative dans l'Intramuros avant de partir en direction de la Croix des Oiseaux et sans grande surprise, ils ont été accueillis par un important cordon de police à 50 mètres du centre social. Les manifestants sont donc restés bloqués là. Enfin, pas tous, un petit groupe de 5-6 militants s'était positionné devant ce centre social bien plus tôt, avant que le cordon policier se mette en place. Ils ont pu déployer une banderole, on pouvait y lire « Culture en danger ». Ils ont rapidement été fermement, c'est clairement le moins qu'on puisse dire, fermement raccompagnés par les forces de l'ordre vers le groupe principal de la mobilisation. Les militants ont scandé des slogans le plus fort possible, comme « Dati démission » par exemple, message qui est arrivé jusqu'aux oreilles de la ministre à l'intérieur et qui ne s'est pas démonté, comme à son habitude, en répondant à la presse, je cite « Quand je vois ce qu'est devenu la CGT, ça me fait de la peine ». De quoi raviver la colère des manifestants dehors, évidemment. Après une bonne heure d'attente, les militants ont été encerclés par les forces de l'ordre au moment de la sortie de la ministre du centre social. Et là, il y a quelques minutes, ils ont été gentiment invités à regagner le centre-ville d'Avignon par petits groupes.
Dimitri Morgado d'ici Vaucluse. 15 ans après le décès de Christina Radi, l'ex-femme du chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, le parquet de Bordeaux rouvre le dossier sous la forme d'une enquête préliminaire pour violence volontaire par conjoint. Information de nos confrères d'RTL. Bertrand Cantat avait été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant en 2003 et jamais interrogé dans le cadre de cette autre affaire. C'est le symbole de la fin du moteur thermique. Stellantis prévoit d'arrêter sa production sur son site historique à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Fin des moteurs thermiques, donc, dans plusieurs mois, selon un porte-parole de l'équipementier automobile. Le site emploie toujours 350 personnes qui devraient être reclassées. De l'Aisne au Loiret, 14 départements, dont toute l'Île-de-France, sont placés en vigilance orange aux pluies et aux inondations. Du côté des températures, ça reste frais cet après-midi, de 22 degrés à Lille jusqu'à 26 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumé. Prochain journal 18h avec Stanislas Vazak. 12h45 sur France Culture. La suite des midis, c'est avec vous, Chloé Cambrelin.
Merci beaucoup, Anne Fauquemberg.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis aujourd'hui autour de la maison Maria Casares, centre culturel de rencontre dédié au théâtre à Alou en Charente que nous visitons et dont nous parlons encore jusqu'à 13h avec le metteur en scène Mathieu Roy, la comédienne Johanna Silberstein, directeur et directrice du lieu. Nous avons parlé avant le journal du festival d'été de la maison Maria Casares qui commence samedi, se tiendra jusqu'au 16 août. Nous avons visité le domaine, nous sommes rendus il y a quelques jours. Vous le disiez rapidement en première partie, Mathieu Roy, ce domaine a été entièrement rénové depuis 2021. Les travaux sont à présent terminés. Ils ont aussi concerné la maison elle-même, le logis qui abrite les meubles et les affaires de Maria Casares, qui a donc acheté ce domaine en 1961 et y est venue jusqu'à sa mort en 1996. Cette maison, elle se visite, elle est ouverte, mais on ne peut pas non plus parler à proprement parler d'un musée.
Ah bah non.
Voilà.
Non, c'est une maison. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments d'une maison, à commencer par les pièces, les salons, les chambres, la cuisine. Donc vous avez tous les éléments d'un très beau logis charentais qui fait 600 mètres carrés, qui s'étend sur un grand rez-de-chaussée, un premier étage et des greniers au deuxième étage.
Elle voulait pas que ce soit un musée, d'ailleurs, c'est ça?
Non, c'était vraiment ce qu'elle avait dit. Elle voulait pas. La seule chose qu'elle a dit, en effet, avant sa mort, c'est n'en faites pas un musée. Et donc, résultat, la manière dont on fait visiter le logis, les objets, puisqu'il y a toute sa bibliothèque qui est dedans, son Molière, un crâne humain qu'elle avait demandé à un ami médecin légiste, et bien tout ça est posé sur des étagères. Et c'est comme ça qu'on le raconte, comme si en fait on veut que les gens. Enfin, c'est comme ça que nous on a découvert cette maison. Ils ont la sensation que Maria Casares, elle vient de sortir, elle vient de descendre les escaliers et elle est partie fumer une cigarette, quoi. Et donc, en effet, c'est cette ambiance-là qu'on veut garder et les gens, et c'est cette ambiance que les gens aiment particulièrement quand ils viennent visiter le logis.
Alors, cette maison comporte des chambres qui peuvent accueillir des artistes en résidence ou d'autres personnes, puisque depuis peu, vous proposez des chambres d'hôtes. C'est quoi l'idée, Mathieu Roy? On imagine qu'il y a une question de modèle économique aussi, peut-être, de recettes propres à développer?
Oui, et surtout d'une expérience à prolonger, puisque on s'est rendu compte que les spectateurs qui viennent au festival d'été, une personne sur quatre nous demandait « mais où est-ce qu'on peut dormir ?» Alors évidemment, on travaille avec des chambres d'hôtes sur la Charente-Limousine, mais au moment de réfléchir en 2019 à quel avenir pour cette maison et les importants travaux qu'il était nécessaire d'engager dans ce logis, puisqu'il n'y avait pas eu de travaux depuis très longtemps, on s'est effectivement posé la question de comment aller vivre après les travaux cette maison. Et notre souhait, c'était que les spectateurs et les visiteurs, en plus des artistes, puissent passer la nuit dans une chambre de la maison Maria Casares. Et donc, à partir de samedi, nous aurons 5 chambres, 2 suites et 3 chambres, qui pourront accueillir des spectateurs qui, après avoir passé la journée avec nous au festival, pourront dormir dans le logis et le matin, ils pourront partager le petit déjeuner avec nous, c'est-à-dire avec les artistes aussi sur place, dans le magnifique jardin.
Alors, vous nous avez fait visiter cette maison pleine de couleurs et de livres, Johanna Silberstein, et nous allons vous retrouver là, dans la bibliothèque.
Alors, attends.